Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est une semaine importante qui s'est ouverte hier pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Le comité des signataires de l'accord de Nouméa, qui regroupe les principaux leaders politiques de l'archipel, est à Paris, comme chaque année. Il était reçu hier par Emmanuel Macron, mais le principal rendez-vous est prévu ce jeudi à Matignon. Il s'agira d'essayer de fixer le cadre du référendum d'autodétermination, prévu pour avoir lieu au plus tard en novembre 2018, c'est-à-dire dans un an. Alors, ce rendez-vous électoral n'est en aucun cas une surprise. Il s'inscrit dans un long processus de décolonisation, entamé en 1988 par les accords de Matignon, puis confirmé et prolongé par celui de Nouméa, 10 ans plus tard, avec comme échéance l'organisation d'une consultation sur l'accès de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Alors voilà qui paraît assez clair en termes de choix proposés aux Néo-Calédoniens, pour ou contre l'indépendance. Sauf que la formulation de la question qui sera posée fait encore débat, tout comme la définition du corps électoral, c'est-à-dire les personnes qui seront autorisées à voter. Alors, est-ce à dire que les presque 20 années qui se sont écoulées depuis l'accord de Nouméa n'ont pas permis à la collectivité néo-calédonienne de se préparer sereinement à ce rendez-vous crucial pour son avenir? La Nouvelle-Calédonie est-elle prête pour l'autodétermination? Eh bien, c'est de cette question dont nous allons discuter ce soir. Je précise que nous avons fait le choix non pas de faire un débat politique entre partisans ou opposants à l'indépendance, ça on aura l'occasion de le faire dans les semaines ou dans les mois à venir, mais plutôt d'essayer de comprendre où en est ce territoire qu'est la Nouvelle-Calédonie. Pour en discuter, 4 invités ce soir. Alain Krisnard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller d'État, ancien haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie. Vous l'avez été de 1991 à 1994. Vous étiez conseiller de Lionel Jospin, Premier ministre, au moment de l'accord de Nouméa. C'était en 1998. Pour discuter avec vous, Sarah Mohamed Gaillard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'INALCO. Vous enseignez l'histoire de l'Océanie, et notamment l'histoire de la vie politique de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez publié une histoire de l'Océanie en 2015 aux éditions Armand Collin. Notre troisième invité est en Nouvelle-Calédonie, justement. Il est au téléphone. Il s'agit de John Passa. Bonsoir, ou bonjour plutôt, parce qu'il est très tôt chez vous.
C'est ça. Bonsoir.
Vous êtes, on va rester sur le bonsoir, merci. Vous êtes sociologue, vos travaux portent notamment sur la société néo-calédonienne, et notamment Kanak, et vous avez été chargé de mission auprès du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Et puis notre quatrième invité n'est pas non plus à Paris, mais il est à Montpellier, en duplex des studios de France Bleu. C'est Jean-Michel Sourisseau, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Vous êtes spécialiste des questions socio-économiques en Nouvelle-Calédonie et le co-auteur d'un ouvrage publié l'an dernier aux éditions Cartala, La Nouvelle-Calédonie face à son destin. Alors, avant d'évoquer peut-être le niveau de préparation de la Nouvelle-Calédonie avec cette échéance qui est quand même toute proche désormais, dans un an, ce sera le référendum. Je voudrais évoquer avec vous, peut-être brièvement, mais une actualité toute proche. C'était hier, la Nouvelle-Calédonie a accédé au statut de membre associé de l'UNESCO. Sarah Mohamed Gaillard, est-ce que c'est une décision, est-ce que c'est une nouvelle importance, ou bien est-ce que c'est quelque chose d'avant tout très symbolique?
Non, je pense que c'est quelque chose d'important, puisque la Nouvelle-Calédonie est engagée depuis quelques années dans un processus d'intégration régionale. Elle est membre du Forum, elle est membre de l'OMS pour la région Pacifique. Elle est membre associée aussi pour la francophonie. Donc ça lui donne voix au chapitre à part entière.
Alain Krisnard.
Oui, ce qui est nouveau pour l'UNESCO, c'est que ça n'est pas une organisation internationale régionale du Pacifique ou de l'Asie-Pacifique, mais une organisation dépendant de l'ONU qui a une compétence mondiale. Donc c'est un pas important dans la reconnaissance de la personnalité internationale de la Nouvelle-Calédonie.
Est-ce qu'on peut y voir une façon pour les Nations Unies d'anticiper un éventuel résultat positif au référendum sur l'autodétermination ? C'est-à-dire, voilà, on prépare au moins le terrain en donnant déjà ce statut de membre associé ?
Non, je ne crois pas. Il y a déjà comme membre associé à l'UNESCO un certain nombre de territoires dépendants, par exemple, des Pays-Bas ou de la Grande-Bretagne, qui sont dans cette situation d'autonomie qui n'est pas une indépendance. Certains peuvent devenir indépendants, d'autres n'ont pas vocation à l'être. Je ne crois pas qu'il y ait ce calcul.
John Passa, vous êtes donc en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est une nouvelle, donc ce statut de membre associé à l'UNESCO, qui est importante pour les Néo-Calédoniens?
seulement de la Nouvelle-Calédonie, mais c'est plus une dimension symbolique qu'autre chose.
Alors, des décisions qui est passée pour l'instant inaperçue, est-ce que, alors pour aller maintenant sur cette question du référendum, qui pour l'instant, je dois dire, alors en métropole fait assez peu de bruit, même si bon, il y a donc cette rencontre hier à l'Élysée avec Emmanuel Macron, jeudi avec le Premier ministre, et puis il y a et le chef du gouvernement et le président de la République qui vont se rendre en Nouvelle-Calédonie dans les semaines qui viennent, mais pour l'instant, on peut pas dire que qu'on parle énormément de la question néo-calédonienne. Est-ce que, à contrario, John Passa, en Nouvelle-Calédonie, cette échéance dans un an du référendum, c'est le grand sujet dont on discute ?
Ça discute. Il y a différents composants politiques essayent d'expliquer chacun leur position et leur vision, leur perspective. Auprès de la population, il y a une attente à la fois. Une teinte de crainte. Il y a beaucoup de craintes de part et d'autre sur cet avenir-là. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Les partis politiques, non, malgré leur projet, leur programme, ne rassurent pas la population. Et c'est vrai que ça fait l'objet des discussions au quotidien.
Alors, beaucoup d'incertitudes, sans doute, entre autres, liées au fait qu'on ne sait pas encore très bien comment sera formulée la question. Je le disais en ouverture de cette discussion. Pour terminer notre premier tour de table, Jean-Michel Sourisson, on ne vous a pas encore entendu. Je parlais de semaines importantes pour la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sans parler peut-être de semaines décisives. Enfin, en tout cas, c'est pendant cette semaine que des actes clairs et concrets devraient être pris.
Oui, il me semble que c'est toutes les étapes du processus maintenant vont être importantes et je pense que là on rentre dans la dernière année et les choses vont se bousculer. Je pense que les gens se sont installés dans faire vivre l'accord de Nouméa pendant un moment et ça s'est plutôt finalement bien passé. Tout le monde a un petit peu repoussé à l'ultime moment en fait l'idée du référendum. Là on y est maintenant dedans et je pense que là même si effectivement, comme disait John Passa, c'est pour l'instant, on est encore dans un premier tour de chauffe. Il me semble que là, ça va lancer vraiment la nouvelle mission parlementaire, ce comité des signataires et l'échéance qui se rapproche. Maintenant, toutes les étapes vont être cruciales et tous les signaux, tout ce qui est symbolique, etc., va peser assez lourd dans la balance, je pense.
Est-ce que je dois comprendre dans ce que vous dites, Jean-Michel Sourisson, qu'il y a peut-être des questions un peu problématiques, des questions qui fâchent, qui ont été repoussées jusqu'à aujourd'hui parce que cette échéance-là, on savait qu'elle existait, mais peut-être qu'on ne voulait pas totalement l'affronter ou s'y confronter.
En même temps, c'était assez confortable. L'intelligence des négociateurs de Matignon et de Nouméa a fait qu'effectivement, on était dans une période et dans une situation institutionnelle qui convenait à tout le monde. Mais en même temps, on voit bien que ça ne peut pas durer maintenant et que bon, les gens ont besoin maintenant en Nouvelle-Calédonie d'avoir une situation un peu plus stable et d'arrêter avec le transitoire. Alors. Est-ce que c'était effectivement est-ce qu'il y a toujours les problèmes restent les mêmes en fait. Enfin, la décision symbolique de indépendance ou pas indépendance reste toujours là quoi. En revanche, et j'espère que cette année va être l'occasion de montrer tout ça. La Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui n'est pas la Nouvelle-Calédonie de 88 ou de 98. Et de mon point de vue en tout cas, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans nos différents travaux, la Nouvelle-Calédonie a quand même des atouts assez importants pour faire face aux questions anciennes et pour y répondre de façon différente.
Alors Jean-Michel Sourisson, vous avez évoqué l'intelligence des négociateurs de l'accord de Nouméa. Ça s'adresse directement à vous, Alain Kresnart, puisque vous faisiez partie justement de ces négociateurs. Est-ce que il y a eu justement une sorte de confort qui s'est installé en Nouvelle-Calédonie avec des décisions qui avaient été prises en 1998, qui suivaient déjà celles qui avaient été prises pour les accords de Matignon en 1988 et qui permettaient peut-être à la fois de faire une pause dans cette collectivité et aussi de préparer l'avenir mais de manière plus apaisée.
La revendication indépendantiste, elle date de 40 ans. La question juridique, on a décidé il y a 30 ans qu'on allait la poser. Donc en 88, il y a eu les accords de Matignon qui ont été approuvés par un référendum national, faut le rappeler. Et la décision prise dans ces accords, c'était en 1998, on posera la question, est-ce que la Nouvelle-Calédonie va être indépendante ou pas? On a repoussé une première fois, d'un commun accord entre indépendantistes et non-indépendantistes, de 20 ans cette question. on peut pas la repousser éternellement. Mais ce qui avait été décidé et en 88 et en 98, c'était qu'en attendant qu'on tranche cette question, on allait essayer de résoudre tous les problèmes qui avaient été, notamment à l'occasion de la revendication indépendantiste, c'est-à-dire les inégalités, l'insuffisante de formation, l'absence d'égalité entre les différentes régions et entre les différentes communautés. Et ça, on l'a résolu. Donc, il n'y a jamais eu on n'a pas décidé qu'on allait écarter les problèmes. On a décidé que la question de l'indépendance, on allait la poser à la fin de ce processus pendant lequel on allait construire une économie, une nouvelle formation, une nouvelle éducation, etc.
Alors, on va aller justement sur cette question de savoir si les problèmes, vous nous dites à la Christenart, ont été résolus. Je voudrais d'abord savoir si tout le monde est d'accord avec ça et si il y a une sorte de consensus autour de ce sujet, si ça n'atténue pas peut-être l'urgence, enfin l'urgence c'est pas une urgence, mais en tout cas la nécessité d'organiser un référendum. On peut se dire que s'il n'y a plus de problème, peut-être que la Nouvelle-Calédonie pourrait continuer à fonctionner comme elle fonctionne aujourd'hui. Sur le constat déjà, Sarah-Mohamed Gaillard, est-ce que vous le partagez ?
Oui, je le partage en partie. Il y a quand même eu des évolutions importantes depuis 30 ans, mais 30 ans, c'est très bref.
Lesquelles ont été les plus importantes
pour vous ? De l'histoire de la colonisation. Le transfert de compétences, les efforts de rééquilibrage, l'usine du Nord qui avait été promise, enfin la deuxième usine du nickel qui avait été promise dès 1967 et qui donne quand même à la province Nord une capacité économique qui n'est pas négligeable. Donc il y a eu de véritables efforts, mais 30 ans, c'est quand même très bref pour effacer les tensions coloniales, pour effacer les souvenirs des affrontements des années 80. Et je pense que la société civile calédonienne est sans doute moins clivée dans son expression quotidienne que les partis politiques. Mais je ne suis pas totalement certaine qu'on soit dans le destin commun, enfin dans une société qui est tendue unanimement vers un destin commun. Il y a beaucoup plus de coexistence des communautés que de réel partage. Il y a encore des clivages sociaux, culturels, scolaires qui sont tout à fait importants entre les communautés.
Avant de retourner voir John Passa en Nouvelle-Calédonie, je voudrais aussi avoir l'avis de Jean-Michel Sourisseau. J'imagine que vous allez être assez proche, puisque dans la présentation de l'ouvrage que vous avez publié l'an dernier, La Nouvelle-Calédonie face à son destin aux éditions Cartala, vous écrivez ceci, enfin je ne sais pas si c'est vous directement qui l'écrivez, puisque c'est un ouvrage collectif, mais les dernières décennies ont été marquées par une forte augmentation de la richesse intérieure et une atténuation des inégalités territoriales.
Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Sur la Nouvelle-Calédonie a fait des progrès, de là où je peux parler, hein, du point de vue de l'économie en tout cas. La Nouvelle-Calédonie a énormément progressé, a tenu une croissance moyenne de 3% par an, avec des résultats, un équipement sanitaire et social partout sur le territoire qui est vraiment sans précédent dans un territoire de ce type. Et en tout cas, dans son environnement proche, la Nouvelle-Calédonie a fait des progrès vraiment considérables. Et au-delà des chiffres en termes de production de richesses et de rééquilibrage un peu de ces différents indicateurs, ce qui est fort aussi, c'est que ce qui s'est passé pendant ces 30 ans, c'est que les structures économiques se sont vraiment affirmées et se sont professionnalisées, se sont renforcées. La situation financière et la trésorerie de la plupart des entreprises calédoniennes sont plutôt assez bonne dans la période qui est là. Donc du coup, de ce point de vue-là, c'est vraiment une grande réussite. Deuxième niveau de réussite, c'est la provincialisation qui avait donc l'idée, c'était de donner aussi des éléments, des leviers de pouvoir aux deux provinces indépendantistes qui étaient la province Nord et la province des Îles. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que le débat sur les représentations que les politiques et que du coup les Calédoniens peuvent avoir de leur avenir et des stratégies économiques a été vraiment très fortement enrichi par cette période de la provincialisation. Et d'un point de vue institutionnel, qui reboucle sur la question économique, c'est qu'on a maintenant en fait un débat et des options sur le développement qui sont sûrement beaucoup plus larges que par le passé.
Puisque vous évoquez la provincialisation, je vais revenir très vite vers vous, Jean-Michel Sourisseau, mais vous parlez des provinces. Je me rends compte que je ne vous ai pas demandé, John Passa, de quelle province vous nous appeliez ce soir ou ce matin pour vous en Nouvelle-Calédonie.
De Nouméa, donc de la province sud.
De la province sud. Est-ce que ce constat d'une réduction des inégalités, d'une Nouvelle-Calédonie qui est peut-être plus forte aujourd'hui, au moins en tout cas économiquement, et qui s'est structurée politiquement, est-ce que ce constat-là, vous le partagez, vous ?
pas tellement. Je partage pas tellement. Peut-être parce que je travaille essentiellement dans le social avec les populations océaniennes et canaques. Je ne sens pas trop ce. Il y a effectivement des avancées. Il y a effectivement des évolutions avec l'économie. Mais la question du partage reste toujours le point de tension. Donc le partage est toujours c'est toujours dans un sens, c'est toujours une population qui en tire les bénéfices, et ça c'est très difficile dans le quotidien, dans l'accompagnement des personnes, ne serait-ce que de discuter de l'avenir du pays, c'est très difficile parce qu'il y a ce champ économique qui est omniprésent dans les regards et dans le parler local qui creuse un peu plus. Et l'échéance 2018 n'arrange pas, les discussions n'arrangent pas, n'apaisent pas les débats. C'est ça qui rend difficile le travail de terrain qu'on peut mener.
J'ai lu dans un de vos textes, John Passack, vous disiez notamment que, puisque vous êtes intéressé aussi à ce qui se passe à l'école, que l'école était aussi un bon miroir des problèmes qui restent encore très vifs en Nouvelle-Calédonie, justement du point de vue de ces inégalités.
Oui, on sort d'un séminaire la semaine dernière sur la place des langues kanak à l'école. Les constats faits au début de la provincialisation, au début des accords, le constat est toujours amer. C'est-à-dire que les langues kanak ont toujours du mal à faire leur place, même si les gens sont quand même optimistes pour dire on va essayer de faire. Mais 30 ans après, le constat est toujours celui-là. Que les langues kanak sont toujours des enseignements de seconde zone, malgré ce qui est écrit dans l'accord de Nouméa. Et ça laisse très, très, très perplexe. Sur la capacité de la société calédonienne à apporter des réponses apaisées ou constructives.
Alain Christian, vous nous disiez tout à l'heure qu'en gros, les engagements qui avaient été pris dans le cadre de l'accord de Nouméa avaient plutôt été réalisés. Il reste quand même peut-être encore des petites choses à faire, même si des progrès ont été faits.
Oui,
un peu le cas, d'ailleurs.
C'est pas des petites choses qui restent, c'est beaucoup de grandes choses. Oui, il faut voir aussi d'où on part, hein, c'est-à-dire d'une juxtaposition de communautés géographiquement éloignées avec des modes de vie complètement différents. Hein. Il faut savoir, par exemple, que le code civil dont tout le monde dit que c'est une des bases de la civilisation et de la culture française ne s'applique pas aux Kanaks, hein, ou qui sont régis pour la plupart par des règles coutumières différentes d'ailleurs selon les aires coutumières. Donc, d'une part, il est vrai que des équipements collectifs ont été faits. Il y a quand même un peu partout maintenant l'eau, l'électricité, des routes goudronnées, etc. D'autre part, il y a une croissance économique importante, mais tout le monde sait que la croissance économique, ça crée aussi de nouvelles inégalités, hein, entre les individus. Donc il y a des Kanaks qui sont maintenant intégrés dans les processus économiques. On peut même dire qu'il y a une classe moyenne Kanak qui est dans la société. Il y a beaucoup de gens qui n'y sont pas.
Est-ce qu'à l'inverse, il y a des... Alors je ne sais pas si le terme caldoche est toujours utilisé aujourd'hui, mais enfin, est-ce qu'il y a des populations d'origine européenne qui se retrouvent du mauvais côté des inégalités, ou bien...
Oui, d'ailleurs, il n'y a pas que les Caldoches et les Kanaks, il y a aussi les Wallisiens, les Futuniens, etc. C'est une mosaïque, tout de même, hein, culturelle. Le changement a été rapide. Comme l'a dit Madame Mohamed Gaillard, 30 ans, en même temps, c'est très court pour changer des habitudes, pour construire une nouvelle économie, pour construire une nouvelle société. Donc, on n'est pas du tout tiré d'affaire et... La question est de savoir si on est dans la bonne direction, s'il faut continuer dans cette direction. Mais incontestablement, on n'est pas au bout du chemin, ni sur l'apurement du passé qui a été très traumatique, hein, d'où le préambule de l'accord de Nouméa pour essayer de faire une reconnaissance du passé sans repentance, ni sur l'égalité des conditions et le rapprochement des modes de vie. La question étant de savoir d'ailleurs si l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est un mode de vie identique pour chacun, ou si, dans ce pays marqué par, encore une fois, l'existence de plusieurs communautés, on conserve des spécificités culturelles.
Ce qui rend compliqué peut-être le fait d'aujourd'hui, Sarah Mohamed Gaillard, de parler d'une société néo-calédonienne, c'est-à-dire que c'est pas seulement, c'est pas une société qui serait harmonieuse, mais ces sociétés-là existent-elles? En tout cas, là, on voit bien à quel point il peut y avoir des divisions qui sont liées notamment à l'histoire mouvementée de ce territoire, mais parler d'une société confrontée à son avenir, même ça, on peut difficilement le dire aujourd'hui.
Je ne sais pas si c'est si difficile que ça, mais ce qui est certain, c'est que la volonté de faire émerger une société calédonienne, c'est un projet porté par l'État, via l'accord de Nouméa notamment, mais ça ne se décrète pas de faire société. Donc il faut énormément de temps, il faut que les gens se parlent, il faut regarder son histoire en face, il faut en discuter, il faut en débattre, il faut pouvoir en débattre de façon plus ou moins dépassionnée, enfin, sans que ça gère de trop fortes tension de part et d'autre, et ça reste difficile. C'est pour ça que je vous disais, 30 ans, c'est très court pour décoloniser les esprits. Vous avez posé la question en préambule, savoir si la Nouvelle-Calédonie était prête pour l'autodétermination. Mais derrière l'autodétermination, on parle de décolonisation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être décolonisé? Vous pouvez être décolonisé, vous pouvez décoloniser le territoire, ça passe par un statut politique, mais décoloniser une société, décoloniser les esprits, faire en sorte que les différentes communautés ne réfléchissent pas toujours par rapport à la France, c'est un problème qu'à la Nouvelle-Calédonie, mais aussi par exemple la Polynésie française voisine, où tout le débat politique est focalisé sur pour ou contre la France. Et on a du mal à faire émerger des problématiques locales, de les faire passer au premier plan des débats politiques.
Mais juste encore un mot, est-ce que ça veut dire que pour vous, d'ailleurs la question elle s'adresse à tous les quatre, mais que une Nouvelle-Calédonie qui deviendrait indépendante ne serait pas forcément entièrement décolonisée? Sarah Mohamed Gaillard.
Alors moi, je, du point de vue historique, je pense qu'on peut être indépendant et pas décolonisé. Le terme même de décolonisation a un sens et des attendus qui ont évolué dans le temps, à la fois à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie et puis à l'échelle des anciennes colonies au sens général. Être décolonisé au moment de la Ve République et lorsque la Nouvelle-Calédonie a voté pour la Ve République, c'était finalement un transfert, un partage, pardon, de compétences, de pouvoir entre l'État central et la Nouvelle-Calédonie. Puis, dans les années 60-70, c'était être en rupture avec la France. Se pose maintenant la question si la décolonisation est forcément synonyme d'indépendance ou si la décolonisation, c'est d'accéder à la pleine souveraineté, ce qui pose une autre question, qui peut accéder à cette souveraineté? Et je pense que les esprits sont loin d'être décolonisés. C'est pas parce qu'on est indépendant qu'on est décolonisé dans les têtes.
Et dans les têtes, et aussi peut-être d'ailleurs dans les faits. Jean-Michel Sourisseau, si on s'intéresse à la question économique, est-ce que aujourd'hui, pour reprendre la question qu'on pose ce soir, la Nouvelle-Calédonie est-elle prête pour l'autodétermination? Est-ce que la collectivité est prête pour être autonome sur le plan économique, sachant quand même qu'aujourd'hui, c'est un territoire qui vit notamment des aides de la métropole?
Ah, c'est une question très vaste et à laquelle j'ai pas la réponse concrètement, qui dépend de beaucoup de paramètres.
On peut imaginer en tout cas que même s'il y a indépendance, la France aura quand même encore quelques intérêts à conserver un pied dans ce territoire.
Ne serait-ce que par le biais du nickel et de la société le nickel à Nouméa en particulier, mais pas seulement. On parlait de dépendance ou indépendance. Il y a un discours qui arrive aussi en disant que finalement, est-ce qu'on va pas lâcher aussi une dépendance politique vers une dépendance économique avec l'accroche qu'on a sur le nickel? Ce qui est sûr, c'est que depuis 30 ans, en tout cas, la Nouvelle-Calédonie a fait le choix de s'équiper pour valoriser sa ressource première qui est le nickel. Et le projet finalement économique des acteurs de la Calédonie, globalement, et la province nord aussi indépendantiste y a globalement participé, c'était de passer d'une économie minière vers une économie industrielle et une économie métallurgique en fait. Et donc du coup, la Nouvelle-Calédonie s'est dotée de ça. Et ce faisant, il est sûr qu'elle s'expose à un marché mondial du nickel, dont on sait qu'en ce moment en plus, il n'est pas très 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 flamboyant. Donc du coup, il y a ce risque-là. En revanche, moi, je pense quand même que les options de choix que la Nouvelle-Calédonie s'est dotée pour gérer sa ressource nickel lui offre quand même quelques avantages par rapport à un marché international et par rapport au jeu mondial. Donc du coup, c'est tout un équilibre. Moi, je peux pas répondre à la question est-ce que la Nouvelle-Calédonie est viable économiquement. En tout cas, la Nouvelle-Calédonie a des atouts pour faire face aux défis qu'elle s'est fixé à travers notamment la ressource nickel. Et derrière ça, il me semble aussi que, alors c'est peu visible pour l'instant et les tentatives qu'il y a eu n'ont pas été forcément abouties, mais il y a aussi des atouts qui sont en train d'émerger pour essayer d'imaginer une économie qui soit plus diversifiée et moins dépendante du nickel et qui s'ouvre sur d'autres formes de développement économique. Et là, il y a énormément de travail qui est mené actuellement. Je connais bien l'exemple de la province Nord et de sa holding Nord Avenir qui essaye effectivement de développer une diversification économique pour se sortir de cette possible dépendance au nickel.
Ça, c'est sans doute un des enjeux importants pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, John Passa, cette diversification de son économie.
Je crois que ça devient les séminaires en Calédonie et les rencontres entre des syndicats et des chefs d'entreprise démontrent qu'il y a une certaine envie d'aller sur une diversification, notamment avec le tourisme. Il y a beaucoup de réflexions sur comment être indépendant du nickel. On est dans cette dynamique-là de la réflexion. Et en même temps, il y a la réalité, j'allais dire, de vie, le cherté de la vie de l'Académie, qui est aussi une entrave à toute la réflexion sur comment s'en sortir du nickel et proposer des choses compétitives avec l'ensemble du bassin pacifique. C'est toute les réflexions que mènent à l'heure actuelle certains groupes pour essayer de s'en sortir. Mais on voit que c'est très 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 difficile. Jean-Michel Sourisseau parlait de Nord Avenir, on a le cas des îles Loyauté qui essayent de sortir, de valoriser le potentiel touristique des îles, et on se retrouve avec le marché des paquebots qui a aussi un impact sur l'écologie fragile des îles Loyauté. Donc c'est toute la question du choix de société, c'est-à-dire socio-économique sur laquelle on veut se lancer en essayant de répondre à la question de l'autodétermination, de notre capacité. Oui. La capacité de l'Académie à essayer de proposer des choses viables.
Voilà, parce qu'il suffit pas juste de poser la question de savoir si vous voulez, enfin quand je dis vous, c'est de manière totalement neutre, mais être indépendant ou pas, mais c'est aussi quel projet de société est proposé ensuite, Alain Christnard, c'est-à-dire la question institutionnelle est une question importante, mais n'est pas une question qui résume toute la problématique néo-calédonienne.
Non, il y en a une autre dont on parle pas, qui à mon avis est assez cruciale, qui est la question identitaire. Parce que tout de même, cette revendication indépendantiste, elle est assez fondamentalement identitaire. En 1958, les Kanaks étaient majoritaires dans la population, ils étaient autonomistes. Maintenant, ils sont 40%, ils sont indépendantistes. Derrière ça, il y a une crainte qui est d'être submergé par une immigration qui pourrait continuer et qui a abouti en Australie à ce que les aborigènes soient 5% et en Nouvelle-Zélande, les Maoris, 20%. Voilà. Donc la question est aussi quel est le rapport de force entre les communautés qui dirige. Hein. Au départ de la revendication indépendantiste, c'était une indépendance kanak. Maintenant, c'est une indépendance ouverte, mais pas ouverte à tout vent non plus. Donc il y a cette question. C'est important, évidemment, le projet de société. C'est important, il y avait la viabilité économique. Mais si on n'a pas en tête que cette revendication est aussi identitaire, hein, la société calédonienne organisée autour des Kanaks, ou en tout cas, comme on dit dans la culture Kanak, le Kanak poteau central de la case. Je crois qu'on n'a pas compris la force quand même de cette revendication.
Est-ce que le référendum de l'an prochain, Alain Christnard, ne risque pas justement d'exacerber encore davantage cette question identitaire? On a évidemment tous le souvenir des affrontements extrêmement violents qui ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie dans les années 80. Est-ce que ce risque-là, pareil, on va évidemment pas tirer des plans sur la comète, mais enfin ce risque-là, j'imagine que tout le monde y pense aujourd'hui.
En 1987, il y a eu un référendum que les Kanaks ont boycotté. Et ce boycott et la suite des événements a abouti au drame de 88. Là, il y a un accord politique en 88, renouvelé en 98, pour poser cette question de l'indépendance. Donc je renverse la question. Si on disait, ben non, on ne pose pas la question comme l'accord qui a été approuvé par les trois quarts des Calédoniens dans un référendum local et qui est dans la Constitution française, si on ne pose pas la question, en sens inverse, alors c'est là qu'il pourrait y avoir cette interrogation. Une fois de plus, vous ne respectez pas votre parole. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire cette consultation dans n'importe quelle condition. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accompagner une question nécessairement simple par des débats politiques constructifs. Mais ne pas poser la question, je crois que ça serait au contraire à l'origine de difficultés plus grandes que
oui,
de la poser.
Oui, mais quelle question, justement, Sarah Mohamed Gaillard ? C'est-à-dire, quelle question va être posée dans un an lors de ce référendum sur l'autodétermination ? Pour l'instant, on ne connaît pas la formulation, c'est ça ?
Non, la formulation, enfin, il n'y a pas de... La question est connue, enfin, les attentes sont connues. Maintenant, c'est la formulation. Comment on formule exactement cette question ? Et ça, je crois qu'il n'y a pas pour l'instant d'accord entre les indépendantistes et les anti-indépendantistes.
Le désaccord, il porte sur quoi ? C'est-à-dire sur l'alternative, c'est-à-dire quoi ? D'un côté l'indépendance et d'autre quoi ? Et c'est plutôt sur l'autre côté, c'est-à-dire soit le statu quo, soit une autonomie renforcée. C'est là-dessus que ça se joue ?
Je pense que ça se joue sur l'idée d'éviter une question trop binaire, même si...
Il y a même pas dans un référendum, c'est souvent binaire.
Oui, mais c'est que la formulation de la question, finalement, n'attise pas à nouveau les tensions, même si, effectivement, la question est déjà préparée par l'accord de Nouméa.
C'est justement ce que dit l'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, qui s'intéresse beaucoup à ces questions, qui dit « Un scrutin de nature outrancièrement binaire, mal préparé, pourrait mettre le feu aux poudres. » C'est que c'est une crainte que vous pouvez partager, John Passa.
Oui, je partage cette crainte-là. Le retour du terrain et le grand clivage qui existe en Calédonie est peut-être un terreau favorable, c'est-à-dire que sous ces aspects sont florissants, sous ces aspects d'évolution où on a l'impression que les mentalités ont changé. On parle tout à l'heure de décolonisation, je pense que les mentalités ne sont pas tout à fait décolonisées de part et d'autre. Le statut de colonisé apparaît de différentes manières dans les strates de la population calédonienne. C'est assez compliqué et ça peut déclencher, oui, cette crainte qu'on a, nous, cette violence-là qui larve un peu la situation calédonienne à l'heure actuelle.
Alain Christin, pour rester sur ce que propose, ce qu'estime Jean-Jacques Urvoas, donc ancien garde des Sceaux, il dit notamment ceci, enfin il disait ça cet été, il n'y a pas un abîme entre les non-indépendantistes partisans d'une très large dévolution des pouvoirs et une partie des indépendantistes soucieuses de maintenir un lien fort avec la France, avec cette idée finalement que indépendantistes et non-anti-indépendantistes pourraient peut-être finir par s'entendre, ce qui rendrait sans doute plus compliqué la formulation d'une question qui soit un petit peu claire justement de ce référendum.
Moi, j'ai une position, mais il y en a d'autres. Je crois d'abord que la question, elle découle de l'accord de Nouméa qui est dans la Constitution. Donc, si on veut fondamentalement changer la question, il faut changer la Constitution, ce qui n'est quand même pas extrêmement simple. Et je crois que les risques dont on parle, ils peuvent être levés, non pas par une question devenant ambiguë, compliquée, où on ne va pas comprendre le résultat finalement, parce que certains auront répondu oui pour telle raison et ou non pour telle autre, mais de l'accompagnement de la question. C'est-à-dire que c'est aux partis politiques de dire aux indépendantistes, parce qu'il y a quand même des gens qui restent indépendantistes, mon indépendance, je la vois comme ça, voilà ce qui se passera, et aux non-indépendantistes de dire politiquement... moi, je suis partisan que ce ne soit pas une indépendance, et voilà ce que je propose, qui peut être en effet quelque chose qui ressemble au statu quo, qui soit encore plus, qui aille plus loin. Après, il y a des mots, des concepts juridiques, fédéralisme, etc.
Ça, pour l'instant, voilà. Ça n'existe pas.
Il y a des réflexions, il y a des propositions de certains partis qui sont, travaillons, rédigeons des textes en commun. Moi, j'ai participé, Manuel Valls l'avait créé quand il était Premier ministre, à une mission qui a écouté tout le monde pendant 2 ans quand même, et qui a établi un rapport avec une liste de convergences et de divergences. En effet, il y a beaucoup de convergences et il y a des divergences. C'est autour de ça que le débat politique va se nouer. Il y a un an quand même pour l'enrichir.
Jean-Michel Sourisseau, je me souviens avoir fait, il y a quelques années de cela, un reportage, c'était à Paris, autour d'un programme qui s'appelait le programme 400 cadres, qui, si ma mémoire est bonne, visait à former les futurs cadres de la Nouvelle-Calédonie. C'est un programme qui s'adressait très majoritairement aux jeunes Kanaks. Est-ce que ce genre de programme a été poursuivi? Et est-ce que ça quand même peut-être participer à atténuer un peu les clivages identitaires de cette société néo-calédonienne?
Oui, ce programme fait partie des succès à mettre au crédit de la provincialisation et de cette période-là. Et le programme s'est prolongé ensuite sur un programme cadre à venir. Il y a encore beaucoup d'étudiants calédoniens qui en profitent. Mais bon, du coup, on reste un peu dans le constat qu'on faisait au début, c'est-à-dire que les progrès sont importants, mais les progrès, tout le monde a bénéficié des progrès en Calédonie, et la difficulté, c'est que malgré ces progrès généraux, les inégalités peuvent encore paraître fortes, et c'est peut-être là où il faut expliquer aussi, c'est que il faudrait pas que ce soit sur la situation économique actuelle et la situation sociale actuelle que se tendent les choses, mais qu'on regarde un peu le bilan plus général et les progrès qui ont été faits en général. Et c'est vrai que peut-être que là, le timing d'un point de vue économique, si je reviens à l'économie, le timing est peut-être pas excellent aujourd'hui, puisqu'on est dans une situation économique un petit peu difficile, avec des prix du nickel qui ont chuté, et on sort d'une période de très forte croissance avec des investissements assez lourds qui ont été menés. Et du coup, là, on est dans une période où du coup, l'économie est en moins bien, les questions sociales restant là, on est effectivement dans des tensions assez fortes. Et je pense que le débat dont on parlait pour accompagner, en fait, ce référendum est très important, parce que de mon point de vue, le projet économique de la Nouvelle-Calédonie, si on s'ouvre plus vers des questions une économie verte ou une économie bleue, valorisant le patrimoine intrinsèque de la Nouvelle-Calédonie, il me semble que là on peut avoir un débat qui peut faire converger aussi certains points de vue et essayer de dépasser les clivages qu'il y a eu et d'offrir aussi un avenir qui soit pas simplement sur une dépendance et une sensibilité au cours du nickel, mais plutôt un projet qui soit vraiment sur la valorisation d'un patrimoine intrinsèque calédonien de cette force de ce pays-là.
Le timing n'est pas idéal, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre que de respecter ce timing? Sarah Mohamed Gaillard, l'échéance de 2018, c'est une échéance contre laquelle sur laquelle on ne peut pas revenir? Ou c'est peut-être Alain Kresnard qui peut me répondre à cette question. Que disait l'accord de Nouméa par rapport à ça? Ça pourrait être en 2019, on pourrait décider, finalement, non, personne n'est tout à fait prêt, on va faire ce référendum en 2019, ou la date de novembre 2018, c'est vraiment la dernière échéance?
D'abord, l'accord de Nouméa et donc la Constitution prévoient qu'il peut y avoir 2 autres référendums après le référendum de 2018. Bon. Cette première date de 2018, elle est obligatoire. Alors après, s'il y a un accord politique, on peut changer la Constitution et le reporter. Mais comme je disais, le référendum devait avoir lieu en 1998, on l'a reporté de 20 ans. Alors, est-ce que cette question a disparu ou est-ce qu'un jour on va la poser et la trancher?
Juste d'un mot, John Passa, pour vous 2018, il faut pas aller au-delà pour au moins ce premier référendum?
Je pense que vu l'état de la situation, on ne peut pas utiliser 2018 comme la fin de quelque chose. Le problème de la formulation, c'est de est-ce que l'indépendance est une rupture ou alors une continuité? Je pense qu'il y a déjà des personnes, notamment dans le monde canac autrefois, qui avaient parlé d'indépendance comme la gestion des dépendances. Beaucoup de gens ont repris cette formule-là, mais quel sens on va donner en ne mettant pas le 2018 comme une échéance couperet qui mettrait à mal la population calédonienne.
On voit bien, en tout cas, à travers cette discussion, qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je vous remercie vraiment tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Alain Kresnard, John Passa, Sarah Mohamed Gaillard et Jean-Michel Sourisseau en duplex chez nos amis de France Bleu à Montpellier. Merci à toute l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulcer, Philippine Lebray-Pellerin, émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan.